carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Laurent Alvaro, baryton de la scène lyrique française et internationale, est le seul interprète français du prestigieux casting de The Fly, l'opéra mis en scène par David Cronenberg. En 1986, David Cronenberg avait réalisé le film The Fly, devenu aujourd'hui un film culte. Pour cet opéra, Laurent Alvaro double Daniel Okulich et incarne le rôle justement de Seth Brando. Il assure au Châtelet une des représentations entre le 2 et le 13 juillet 2008 et fait partie du casting retenu pour la représentation de The Fly à l'Opéra de Los Angeles en septembre prochain. En répétition le 3 juin 2008 à la Manufacture des œillets à Ivry, Laurent Alvaro s'exprime sur cette œuvre nouvelle présentée en création mondiale au Théâtre du Châtelet et sur son travail. Laurent Alvaro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes baryton et vous avez déjà une longue carrière derrière vous quand même.
Ouais.
Oui, on vous considère comme une valeur montante de la scène lyrique, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà quand même dans les hauteurs. Ne serait-ce qu'aujourd'hui par cette participation sur The Fly.
Oui, enfin, vous savez, la montagne sur laquelle on est cache toujours une autre montagne. Voilà, donc les hauteurs sont toutes relatives.
Très bien. Alors, vous chantez en France comme à l'étranger.
Oui.
Et puis là, actuellement, vous êtes en répétition au Théâtre du Châtelet.
Absolument.
Pour la préparation de l'opéra The Fly, La Mouche, composée par Howard Shore, qui avait déjà écrit la musique du film de Cronenberg, fameux film qui c'est comme ça qu'on connaît, je crois, aujourd'hui en France et jeune génération, cette œuvre qui est à l'origine, bon, une nouvelle de John Langdon ou Langeland, je ne sais pas exactement comment on dit, qui avait été adaptée déjà au cinéma. Alors, cette histoire de science-fiction qui est assez effrayante, quand même, là, elle est adaptée à l'opéra. On est à peu près à un mois de la première.
Oui.
Et vous tenez l'un des rôles principaux, quand même,
oui.
Puisqu'il y a l'histoire de ce scientifique qui travaille à des expériences de téléportation.
Voilà.
Et évidemment, il va lui arriver un problème bien connu, un petit insecte se glisse dans une machine.
Voilà. Et il se retrouve donc téléporté et donc génétiquement spliced, mélangé avec le matériel génétique de la mouche. Et on assiste à sa transformation qui devient finalement une lente dégradation pour finir par la mort du personnage.
Voilà. Alors ça, c'est l'argument, le résumé de l'opéra.
C'est une partie de l'argument puisque là-dessus se mêle quand même et c'est très important, que ce soit aux yeux du compositeur ou aux yeux de Cronenberg, une histoire d'amour.
Tout à fait.
Pour eux, ils disent que c'est avant tout une histoire d'amour. Une histoire d'amour peut-être du personnage lui-même avec ses appareils et la science et toute cette chose qui tourne autour de l'organique, du corps,
de la
transformation de la chair, de flesh,
ouais.
Qui est très, très, très présente dans le livret de l'opéra, peut-être encore plus que dans le film.
Dans le film, ça l'est déjà.
Voilà,
mais
c'est encore plus exacerbé dans le livret. Mm-hmm. Donc ce qu'on appelle le livret, c'est le texte sur lequel les chanteurs chantent la musique. Et c'est l'histoire d'amour entre Seth Brundle et Veronica, qui est une journaliste qui l'aborde après 6 ans d'abstinence, on va dire, et de recherche
intellectuelle,
voilà, etc. Et un jour, il voit bien qu'il y a un problème, il se décide à sortir et il aborde Veronica et il lui dit, voilà, j'ai un secret à partager avec vous. Et cette jeune femme est très sur la réserve au début, parce qu'elle pense qu'elle a affaire à un usurpateur, on va dire.
Voilà.
Et puis, elle se rend compte qu'elle a affaire à un vrai génie qui a fait une très grande découverte. Vous imaginez, si un jour on découvre comment téléporter ne serait-ce que des objets inanimés, puisque
au début, il en est là.
Et grâce à l'amour, qu'ils partagent tous les deux, il arrive à comprendre, et alors ça, l'histoire ne dit pas exactement techniquement comment, forcément, c'est de la science-fiction, mais il arrive à trouver le moyen de téléporter de la matière vivante, des êtres vivants, ça commence par un babouin.
Alors, dans le film de Cronenberg, c'est assez gore, quand même.
Voilà. Hein,
le babouin arrive en lambeaux très détachés.
Ouais, on va dire. Inside out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Hein. Mmh. Il est retourné, quoi. Il n'a pas trouvé le moyen. Ça, c'est la première étape. C'est avant que Brundle ne soit. On peut presque dire que c'est une sorte de redépucelage, parce que moi, c'est vraiment l'impression que ça donne dans l'histoire. C'est-à-dire que Véronica le réinitie à la chair, à la sensualité, à l'amour, à l'amour physique. Et donc, l'étape suivante, il se dit, mais bien sûr, comment ai-je pu laisser ce paramètre, pour parler en termes scientifiques, pseudo-scientifiques, de côté. Et donc, l'étape suivante est réussie. Il téléporte le babouin de manière...
réussi, voilà, accompli. Puisqu'on parle de l'histoire, là, vous connaissiez le film, j'y suppose, le film culte.
Ouais.
Qu'est-ce que ça fait là, de, entre guillemets, chausser, même si vous chantez, bien sûr, le rôle là, que Jeff Goldblum interprétait. Parce que ça a été un petit peu...
Grand
acteur, ça doit être difficile de se retirer peut-être un peu de...
C'est-à-dire que
c'est le chant qui vous porte. Le film là, vous l'avez effacé. Comment ça se passe?
Parce je l'ai regardé.
Cronenberg a fait les deux. Hein,
voilà.
Il fait l'opéra et le film.
Donc, alors, comme le dit très bien Cronenberg lui-même, Cronenberg dit je ne suis pas là pour refaire mon film.
Oui.
Et il l'a dit dès le début, puisque l'aventure est assez longue quand même. On a fait des séances de travail pour. D'abord, déchiffrer l'œuvre, c'est-à-dire mettre les mots sur les notes que le compositeur avait écrites, débroussailler le terrain musical. Placido Domingo s'est déplacé, est venu de Los Angeles, a écouté la première version, il y a eu un retravail sur le livret, ensuite Cronenberg est venu, tout ça s'est fait en plusieurs sessions et en plusieurs séances, ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ce projet depuis le départ, et je suppose que le compositeur encore plus longtemps. Et je sais que Cronenberg et Shore, à l'origine, au moment du film, avaient déjà dit il y a quelque chose d'être tellement dramatique et tellement lyrique dans le film qu'on aimerait en faire un opéra. Donc c'est un projet
ça qui est le début.
Voilà. Alors j'ai un peu digressé par rapport à la question.
C'était
Jeff Goldblum.
Au même titre que Cronenberg se détache de son film, s'il a écrit, il a remis en scène, etc.
Ouais.
Comment vous faites
On essaie de faire pareil. À mon humble niveau. J'ai vu le film il y a à peu près 3-4 mois. Quelque chose comme ça, enfin pour la dernière fois. Et là, pour l'instant, j'essaie de m'en détacher parce que Goldblum, effectivement, est un immense acteur. Il faut savoir que Goldblum et l'actrice qui jouait Véronica étaient ensemble à l'époque, ce qui crée d'autant plus un lien extrêmement fort entre les deux, ce qui n'est pas le cas entre nous, chanteurs, et Roxandra Donoz qui chante Véronica. Okay. Et donc, tous ces paramètres font que je pense qu'effectivement il faut prendre un petit peu de distance. Ce qui m'a fasciné chez Goldblum, c'est surtout ses yeux, son regard, qui est en plus, je ne trouve pas le mot, mais la caméra avec les gros plans, je veux dire, on a vraiment des focus comme ça sur le regard, et on voit le jeu incroyable de Goldblum, même au début. Je veux dire, il a une manière d'incarner comme ça, et d'ailleurs, dans sa filmographie, je regardais sur internet, on lui propose souvent des scientifiques un petit peu déjantés, un petit peu fou comme ça, de plus en plus.
Donc vous, comment vous allez interpréter parce que le chant, la musique va vous porter, on va en parler après, évidemment. Comment montrer son regard de loin sur une grande scène?
Alors ça, c'est
pas évident.
Non, c'est pas évident.
C'est bien aussi que ce soit comme un guide, peut-être, pour vous, ou une référence, ou quelque chose, je sais pas.
C'est une référence au niveau du jeu, c'est-à-dire au niveau de l'incarnation, au niveau de la manière dont il s'est approprié le personnage. On voit qu'ils ont énormément travaillé sur ce que pouvait être une personne comme ça, isolée, extrêmement brillante intellectuellement. Je trouve que c'est une chose qui est fascinante dans le film, c'est qu'on le voit tout de suite dès les premières images.
Il est jeune, il est doué,
il est complètement timide, il est complètement coupé.
Et il mange des cheeseburgers.
Voilà, coupé du monde, la matérialité n'a aucune importance. Il mange des cheeseburgers et il a sa collection de costumes dans son placard. Ça, c'est une trouvaille absolument géniale. Il faut préciser que Denise Cronenberg, la sœur de David, qui a fait les costumes du film, fait aussi les costumes de l'opéra. Pareil pour les effets spéciaux. Enfin bon, c'est
la même équipe artistique.
C'est vraiment la même équipe artistique. Et ensuite, je crois que le chanteur, comme tout interprète, mais encore plus parce que le chant intervient, nous ne sommes que des vaisseaux. Nous sommes vraiment des interprètes, c'est-à-dire que la musique, le texte et la mise en scène passent à travers nous. C'est nous, interprètes, qui ne sommes là que pour faire passer l'œuvre, l'émotion et ce que les gens ont envie de voir, de ressentir, d'analyser ou de ne pas analyser par rapport à une œuvre comme ça, mais par rapport à un opéra de Mozart aussi, d'ailleurs.
Ouais. Voilà. Alors, vous êtes amené à jouer des rôles complètement différents. On revient un peu à vous, on abandonne un petit peu l'œuvre, 30 secondes. Vous interprétiez Monsieur Coquenard dans Véronique il n'y a pas très longtemps. Oui. Là, vous passez à un apprenti sorcier fou et fou amoureux.
Ouais.
Comment est-ce qu'on passe comme ça d'un personnage à l'autre? Mais surtout, ma question, c'était plutôt votre parcours pour être qualifié d'éclectique, même quand on regarde un petit peu avant tout ce que vous avez fait. Mais comment vous est-ce que c'est le mot juste? Comment vous qualifieriez votre parcours? Parce que c'est déjà, vous avez fait vraiment quand même un sacré chemin. Moi, quand je vois ce que vous avez fait, pour moi, c'est déjà très impressionnant.
C'est assez drôle, en fait. Lors d'une dernière interview, on posait ce genre de questions à une de mes collègues. Mmh. Et elle a fait une très jolie réponse. Elle a dit, ce n'est pas moi qui ai choisi l'opéra, c'est l'opéra qui m'a choisi.
Mmh.
Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Moi, je suis musicien de formation, pianiste, et beaucoup d'autres instruments. Je voulais faire de la direction d'orchestre quand j'étais jeune.
Ouais.
Je dirigeais dans ma chambre, etc. Ouais. Et puis à 18 ans, on a découvert que j'avais une voix naturelle et les choses se sont enchaînées comme ça, de manière, quand on regarde mon CV, de manière un petit peu finalement, peut-être pas chaotique, mais peut-être pas avec la fulgurance et l'évidence qu'ont certaines carrières de jeunes chanteurs qui ont tout de suite des voix accomplies. Moi, j'ai connu des changements de cap quoi, dans la carrière, mais ça n'a fait que l'enrichir. Donc j'en suis très heureux. Et, à noter quand même entre Coquenard et La Mouche.
Celle-là, c'est vraiment un grand écart.
Disons que c'était un des premiers étirements. Mais entre Coquenard, il y a eu aussi Padmavati, mise en scène par Sanjid Leila Benchadi, peut-être le plus grand metteur en scène de Bollywood indien,
qui est venu à Paris
pour mettre en scène cette œuvre de Roussel, qui est une chose très très rarement donnée, un opéra-ballet, blablabla. Bla. Et je viens de faire Golo dans Pélias et Mélisande.
Oui, donc quand même.
Voyez, donc.
C'est le côté merveilleux de l'opéra ou c'est
bien sûr,
aussi,
c'est génial.
Mais vous, quand même, vous participez aussi quand même dans ces choix.
Oui et
on
non.
Vous choisit aussi,
on me choisit aussi. On me propose des choses. Pour Golo dans Péléas, c'était une rencontre avec le metteur en scène. Nous n'avions jamais travaillé ensemble, mais nous étions amis. Et il me dit, mais quel est le rôle de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais chanter par-dessus tout? Je lui dis, oh, bien sûr, c'est Péléas. Et voilà. Et passer de Golo à La Mouche, en ayant fait ce travail avec Fanny Ardant avant sur une œuvre complètement légère, loufoque et comment dire, dans une sorte presque d'excès inverse.
De légèreté, de séduction, on va dire.
Voilà, je ne sais pas si vous avez assisté au spectacle, mais on était vraiment presque dans une outrance d'un autre style. Quoi. Ouais. Et c'est très amusant de faire ça, c'est très fatigant aussi.
Oui.
ça utilise énormément d'énergie physique, psychique, intellectuelle, tout ce que vous voulez.
Oui, ça, je veux bien croire, sauf que c'était vraiment tout ça se passe vraiment, vous enchaînez quand même.
Oui, là c'est rôles, une période là, c'est assez faste, on va dire. Voilà.
Comment ça s'est passé pour sur The Fly, justement? Vous avez été choisi, comment ça se passe? Bon, sans rentrer dans un grand détail, mais
disons que j'ai une relation assez privilégiée avec le théâtre du Châtelet.
Oui, je veux, exactement.
Voilà, comme on peut le voir dans mon CV. Ouais. Et étant musicien de formation, j'ai la chance de lire assez facilement la musique. Et comme il s'agissait de rentrer dans cette œuvre en très très peu de temps, en quelques jours, et il fallait donc quelqu'un qui lise la musique rapidement, qui parle anglais assez correctement, et donc on m'a appelé et les choses se sont faites comme ça. Et j'ai eu la chance, parce que c'est une grande chance, de pouvoir créer donc ce rôle principal. Et en fait, je suis resté dans l'aventure et j'ai toujours su que ça allait être un chanteur anglo-saxon nord-américain qui allait faire le rôle principal, notamment pour Los Angeles. Voilà. Ça, c'était évident. Mais par une certaine grâce, et peut-être parce que Domingo Shore et Cronenberg m'ont vu travailler, M. Chopin m'a proposé de non seulement assurer la doublure, mais en plus de faire une représentation
au moment des 5-6 jours du spectacle, voilà. En juillet, au théâtre du Châtelet. Vous allez suivre le spectacle à Los Angeles quand il va être pris en septembre.
Alors,
comme doublure, ou est-ce que c'est trop tôt pour vous poser la question? Où est-ce qu'on en est?
Voilà. Alors, breaking news, j'ai vu Placido Domingo, maestro, ce matin, et justement, il me disait, mais Laurent, Los Angeles ne vous a pas contacté encore. Je ne sais pas, en fait. Bon, c'est un monsieur qui est extrêmement occupé entre ses activités de chef et ses activités de chanteur. Et donc, il est plus ou moins question que j'aille à Los Angeles, au moins pour assurer la doublure, sachant que le protectionnisme américain, à ce niveau-là, est assez contraignant. C'est-à-dire que, normalement, les États-Unis n'accordent pas le droit aux étrangers de venir assurer des rôles de doublure ou des petits rôles, parce qu'ils considèrent que des artistes locaux peuvent le faire. Sauf que, dans ce cas-là, c'est une coproduction avec le Théâtre du Châtelet, et en plus, c'est une œuvre contemporaine, c'est une création, donc j'ai peut-être une chance de partir aux États-Unis,
qui pourrait être sympathique. Ce serait la seule voie française, là, de...
Oui, et puis ne serait-ce que pour voir comment les Américains travaillent chez eux, c'est une expérience extrêmement enrichissante.
Voilà. Pour vous, Laurent Alvaro, qu'est-ce qui est nouveau vocalement avec cet opéra?
Alors, plusieurs choses.
Oui.
Un, Howard Shore n'avait jamais écrit pour des chanteurs lyriques.
Oui.
Donc, son écriture vocale est absolument différente de toutes les œuvres contemporaines que j'ai pu faire précédemment. Ça, c'est une chose. C'est une écriture extrêmement exigeante. Pour parler techniquement, il n'y a aucune doublure du chanteur dans l'orchestre. C'est-à-dire que l'orchestre joue des notes, mais le chanteur en chante d'autres. Et ça, c'est un travail solfégique, ne serait-ce que pour apprendre la musique, qui est extrêmement exigeant. De deux, la langue.
Oui.
Ce n'est pas chanté en anglais, c'est chanté en américain. Et c'est chanté avec la couleur, essayer de retrouver, ils sont très exigeants là-dessus, et ils me le demandent d'autant plus qu'ils savent que je suis français, voilà. Et donc j'ai un énorme travail à faire sur le texte lui-même, sur le texte parlé. Et trois, ça a été l'évolution de l'écriture de la tessiture du personnage, puisqu'au départ, Howard Shore l'avait écrit pour, disons, un baryton avec une voix très étendue, allant de l'extrême grave à l'extrême aigu. Et puis, ayant rencontré Daniel Okolich, qui quand même, il faut le citer, qui va être le chanteur qui va chanter et à Paris et à Los Angeles, il a un petit peu recentré la tessiture de la voix sur sa propre tessiture, c'est-à-dire plus baryton basse que baryton traditionnel. Donc voilà.
Alors où vous allez vous situer, vous ?
Ah, mais moi, je veux me situer là où on me dit de me situer, là où la musique me dit de me situer. Voilà. Il faut savoir que ce qui est très contraignant quand on est deuxième distribution, pour ne pas dire doublure, c'est qu'il faut, à tous les niveaux, s'adapter à ce que fait le premier cast. La mise en scène, la musique est créée pour eux. Et il faut essayer non seulement de rentrer dans ce qu'eux proposent et eux font, tout en nous-mêmes gardant notre part d'interprétation et mon intégrité d'interprète.
Bien sûr.
Et donc, c'est une sorte de double jeu assez complexe et assez, pas forcément facile à gérer, d'ailleurs.
Ah oui, oui, j'imagine. Qu'est-ce qui est le plus difficile, alors, pour vous, en ce moment, au moment des répétitions, là ?
Là, de rester assis sur ma chaise.
C'est l'impatience.
Oui, c'est l'impatience, c'est l'envie de faire et d'essayer et de travailler avec Domingo.
Qu'est-ce que ça fait de travailler sous la direction de Placido Domingo, quoi ?
C'est un chanteur et ça se sent dans sa direction, c'est-à-dire qu'il dirige et il chante en même temps que vous. Et ça, c'est voilà, il ouvre la bouche, il vous donne un exemple, il chante une note et tout d'un coup, on a eu l'expérience avec le Philharmonique de Radio France quand on a fait les premières répétitions et l'orchestre était abasourdi d'entendre la résonance de cette voix, quoi. C'est toujours un chanteur. Et puis, c'est un charisme, une aura, une gentillesse.
Oh oui, ça,
c'est un homme d'une
sur
d'une
le
bonté,
plateau tout à l'heure,
amour,
c'était vraiment.
Voilà.
Tout se passait vraiment calmement, une espèce de sérénité extraordinaire.
Complètement. Une humilité devant la musique, une envie de trouver toutes les. Il rentre dans la partition, il la fouille, il la triture, mais dans le bon sens, quoi. Il essaye d'en extraire tout ce qui va lui sembler essentiel et expressif. C'est un monsieur qui vit complètement ce qu'il fait. C'est une grande leçon de le côtoyer.
Est-ce que l'écriture musicale de Warshaw vous change des rôles habituels que vous avez interprétés ? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'au niveau de votre voix ou de...
Non, ce que,
ça changera.
C'est simplement que le rôle est écrasant.
Alors, qu'est-ce qui est pesant ?
Le Cette rôle est écrasant.
C'est l'histoire.
Tout.
Tout.
La longueur du rôle.
Oui.
Brundle est là du début jusqu'à la fin.
Il est
quasiment.
Ouais.
Hein, voilà. Il y a deux, trois petites scènes où il peut disparaître et boire un verre d'eau. Ouais. Et ça c'est une chose. C'est comparable au plus grand rôle de baryton qu'on trouve dans le répertoire. Et ensuite, c'est
physique, peut-être.
Oui, la transformation physique qui va être très lourde, puisque Cronenberg amène avec lui ce qui est l'essence même du film,
c'est
ce travail sur la métamorphose. Et donc, on va dans ce qu'on appelle des précipités au théâtre, c'est-à-dire de très courts moments où la personne sort de scène, l'interprète sort de scène, et là, vous avez une armée de maquilleuses, d'habilleuses qui se jettent sur vous et qui vous posent un masque en latex, des prothèses, vous maquillent, vous changent de vêtements, etc., pour que petit à petit, à chaque fois qu'il re-rentre, un élément de plus se soit rajouté et pour finir complètement avec une prothèse intégrale, comme une combinaison de plongée, si vous voulez, qui va recouvrir tout le corps et on aura toute la déformation du corps.
Et ça pour chanter, comment c'est, pas très...
Mais pour l'instant, je ne l'ai
adapté,
pas essayé. Donc, je ne peux pas vous dire. Je sais que Daniel a fait un essai aux États-Unis et il m'a dit qu'il fallait boire beaucoup, beaucoup d'eau parce qu'on va transpirer énormément, sachant qu'en plus, sous tout ce bazar, nous avons un harnais de sécurité
pour
faire
de
l'escalade.
Voilà.
Parce que vous
voliez.
Alors, on appelle ça un vol au théâtre, mais ça ne va pas être vraiment un vol, c'est-à-dire ça ne va pas être la mouche qui se pose quelque part, c'est la mouche qui s'accroche sur le mur et qui va retourner, marcher sur le plafond et descendre la tête en bas. Paraît-il qu'on va essayer de chanter en même temps.
Évidemment, c'est la question qui me brûlait les lèvres.
Oui, bien sûr. On a fait quelques essais et ça s'avère...
C'est un défi, ça.
Oui, c'est un vrai défi physique, ça arrive à la fin de l'opéra. On a donc cette énorme prothèse qui est très lourde, très très chaude sur nous, et donc en plus on va se retrouver à une dizaine de mètres de hauteur suspendu par un câble et la tête en bas
spéciaux en plus,
et quelques effets spéciaux en plus, voilà.
comme si ça ne suffisait pas.
Voilà.
Alors c'est drôle parce qu'il y a, comme ça, ce que j'en découvre, il y a l'air d'y avoir une abondance entre, on va dire, le décor, les maquillages, bon, tout un travail où on en prend plein les yeux. Mm-hmm. Et puis, mais je me trompe peut-être, hein, le peu que j'ai entendu de tout à l'heure de la musique, quelque chose d'assez dépouillé, d'assez intense, une intensité forte dans laquelle on rentre. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste qui est voulu ou j'en sais rien, hein, c'est ces impressions que j'ai eues, peut-être qu'elles sont fausses puisque je n'ai pas connaissance de l'opéra en entier.
Si c'est, mais où est-ce que
la musique est juste justement cette mise en scène, ces décors, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des personnalités complètement différentes, voire sur des Cronenberg quand même.
Oui, en même temps, ils se connaissent très très bien.
Je crois que
oui, c'est de très vieux amis. Hein.
Et j'ai l'impression que dans ce que j'ai vu, peu que j'ai vu une heure ou deux de répétition, c'est pas grand chose. J'ai l'impression d'une musique d'un opéra comme ça musicalement, mais moi je connais rien. Dépouillé, on va dire, assez contemporain, qui est loin de la musique de film habituelle.
Ouais.
Hein.
C'est une évidence.
Ce que vous me dites, ce que je comprends, ce que j'ai vu des décors, parce qu'ici, à la manufacture des œillets à Ivry, où le théâtre du Châtelet répète, ben, vous répétez grandeur nature, comme s'il y avait une scène du Châtelet. Donc, ce que j'en ai vu, c'est très visuel, il y a beaucoup de choses, quoi. On montre.
Oui, bah, par définition,
à l'opéra.
L'art de la scène. Hein, voilà.
Donc là, il y a plein de choses.
Vous verrez, quand le spectacle sera dans son entier, quand vous le verrez dans son intégralité, il n'y a pas tant de choses que ça. Je pense que ça va beaucoup jouer avec les lumières. C'est quasiment un décor unique, je crois qu'on peut le dire. On est dans le laboratoire Brundle et on a sa console de travail, ses deux téléphones et des éléments qui rentrent, qui sortent. Alors, effectivement, ça crée un impact visuel parce que c'est un vrai décor, c'est un décor qui est assez fort. Hein, presque comme ça fait penser au studio d'Universal.
Vous avez raison, on n'est pas dans la multiplication des décors.
Voilà,
tout à fait.
Voilà, on n'a pas des toiles peintes qui tombent des cintres. Hein.
Mais je
pense que la musique d'abord mérite d'être entendue avec l'orchestre. Ça me semble primordial. Au piano, c'est complètement différent. Je pense qu'on perd 50% de ce qu'est la musique de chant. Et puis, elle ne ressemble pas du tout à sa musique de film.
Ça m'a quand même fait l'impression d'autre chose.
Ouais,
c'est ça que...
Alors, maintenant que je commence à y être plongé, je retrouve des procédés d'écriture, des choses qui sont communes. Et bien sûr, voilà, ça vient de la même personne, c'est le même compositeur. Mais je sais, pour avoir eu des discussions avec lui, qu'il a vraiment cherché à se démarquer et qu'il ne voulait pas faire un opéra musique de film. Il a vraiment été dans cette démarche et effectivement, son entreprise est réussie à ce niveau-là. Voilà.
Eh bien, Laurent Alvaro, merci beaucoup pour cette interview.
Mais je vous en prie.
C'est très gentil de nous avoir accordé tout ce temps.
Vous venez d'entendre l'interview de Laurent Alvaro, baryton de la scène française lyrique et de la scène internationale, qui est le seul interprète français du prestigieux casting de The Fly, l'opéra mis en scène par David Cronenberg au Théâtre du Châtelet.